Avec l'allongement de la durée de la vie, les progrès de la médecine et l'évolution des mentalités, l'âge de la retraite sonne comme un nouveau départ. Et c'est souvent pour les couples le moment de faire un bilan. Les enfants partis, l'infidélité, l'ennui, une volonté d'épanouissement à tout prix, une envie de liberté. Et voilà les retraités qui brisent un tabou, ils se séparent. Le nombre de divorces après 60 ans a plus que doublé en 20 ans. Mais comment se lance-t-on dans cette nouvelle vie quand on est celui qui a choisi de partir ? Comment vit-on la situation quand on l'a subie ? Quelles sont les conséquences pour les seniors ? Et comment réagissent leurs familles ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Jean. Sa nouvelle vie a commencé après 35 ans de mariage avec une femme. Le temps de trouver son vrai amour et sa vraie identité. Je suis Olivier Delacroix. Bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
Maintenant, je vous emmène à Poitiers. J'ai rendez-vous avec Jean, 67 ans. Il y a 10 ans, il a divorcé après 35 ans de mariage. Depuis, il a refait sa vie d'une manière totalement inattendue. Lorsque j'arrive, Jean est dans les cartons jusqu'au cou.
Jean ?
Bonjour.
Bonjour.
Comment Olivier. Allez-vous ?
Bien, bien, enfin bien. Un peu dans le bazar, là,
en plein,
parce que c'est le carton, 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 carton.
C'est le jour du départ.
C'est le jour du départ.
Vous vous apprêtez à partir pour La Réunion.
Voilà, exactement. On part à La Réunion, un grand projet pour une nouvelle vie sous les tropiques.
D'accord. Avant cette vie, il y a eu une autre vie durant laquelle vous avez été marié 35 ans.
À peu près, oui. Mm-hmm. Et puis, un jour, il y a eu une envie de partir faire autre chose. Et j'ai donc divorcé.
Est-ce que c'est une rencontre qui vous a fait vraiment basculer ou est-ce que c'est vraiment définitivement l'ennui ?
C'est d'abord peut-être la rencontre parce que tout de suite, quelque chose qu'on sent, un amour qui naît, tout simplement. Et puis, l'ennui de l'autre côté, les deux rassemblés, ça nécessite une coupure.
Et
on y va vite, parce que quand on est à la retraite, dans la tête, on se dit on est en train de vieillir, comme tout le monde, et il faut sauter tout de suite et puis y aller pour pas perdre de temps. Et les quelques mois où j'ai dit à mon ex-épouse que ça collait plus, quoi, que fallait trouver une solution. Elle a rapidement compris que j'avais trouvé quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, c'était plus vivable. L'amour que j'avais pour mon ex-épouse, pour moi, c'était ça, l'amour. C'était ça. Mais maintenant, je sais ce que c'est. C'est autre chose. C'est quelque chose de plus fort, c'est quelque chose
de plus intense.
Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas la même chose.
Jean, on va aller voir l'amour de... nouvel amour de votre vie, qui est en train de travailler.
Dans les cartons, je suppose. Allez. Voilà.
Bonjour.
Bonjour. André.
Enchanté, Olivier.
Olivier.
En plein boom. J'arrive en plein boom,
mettre
un petit peu...
Mais c'est pour la bonne cause, donc...
Je vous suis.
Allez, on y va.
La femme de Jean a très mal vécu ce changement radical. Le choc a été très violent pour elle. Elle a tenté de refaire sa vie de son côté. Aujourd'hui, les ex-époux ne se parlent plus.
C'est tout.
Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ?
Le hasard. Dans le train, j'étais assis en face ou à côté, je crois. Et puis, on a discuté dans le train, comme ça. Et puis, en arrivant, il me dit « Est-ce que vous auriez 5 minutes pour me ramener ?» Il était à pied, je lui ai dit « Oui ». Et puis, on s'est rentré, on a bu un coup, on a discuté. Puis après, on s'est revus.
Vous étiez célibataire ?
Non, je n'étais pas célibataire, j'étais avec un garçon.
D'accord.
Jean était marié,
Justement, le fait que Jean soit marié, est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné au début ou...
Absolument pas.
Bon.
C'est ça. Clair, moi. Ouais. C'est non. Clair.
Et vous, le fait d'être marié, est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné au début, quand vous avez ressenti les premiers frémissements pour André?
Oui, quand même. Je ne peux pas dire le contraire. Oui. Là, on est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mm-hmm. C'est hors norme. Mais dans le fond de moi-même, je me disais, c'est sans doute possible. C'est sans doute ce que tu cherches depuis longtemps, que tu n'as pas trop... Et puis là, tout d'un coup, tu l'as devant toi, donc vas-y. Tant pis si tu te gourres, eh ben tu te gourres, tant pis. Soit on reste sage et puis on reste marié, hein, ou alors on commence à aller dans la tromperie. J'ai opté pour la deuxième solution. Mais au bout de...
Au bout d'un certain temps,
c'était plus vivable. Et justement, on avait envie, je crois l'un comme l'autre, de montrer qu'il fallait se mettre au grand jour pour que l'amour soit encore plus grand, pour pouvoir le montrer aux autres. Quoi.
Pourquoi cette clandestinité? Peur de révéler au grand jour son homosexualité?
Effectivement, par rapport aux connaissances, l'entourage proche, les enfants, la famille, aller annoncer tout d'un coup que je m'en vais avec un homme, c'est pas encore dans l'esprit ouvert de tout le monde. Ça. Alors on m'a dit partout, tu te rends compte, c'est un plus jeune que toi, quand il aura bouffé tout ton fric, il en trouvera un autre, machin. Alors bon, on écoute, hein.
Hein? Je t'ai peut-être bouffé tout ton fric, mais je suis encore avec toi, donc...
Bon, visiblement, il en reste encore un peu.
Un peu, oui.
Non, ça va être... Alors est-ce que on peut vivre une vie de couple avec quelqu'un du même sexe?
Quand on a été 35 ans marié à une femme, aujourd'hui vous êtes gay.
Oui.
Mais est-ce que durant ces 35 ans de mariage, vous l'étiez déjà ou non?
Forcément. Gay, je savais sans doute depuis que je suis tout petit. Pourquoi on ne le dit pas, pourquoi on ne passe pas à l'acte? C'est parce que on est obligé de dire, pour faire comme les autres, on va se marier.
On rentre dans la norme.
On rentre dans la norme. On est bien comme il faut, là. Et puis, on n'en bouge plus, quoi. Puis, à un moment...
Ça explose.
Ça explose, voilà.
Pourquoi avoir attendu l'âge de la retraite pour divorcer?
Parce que j'avais pas en face l'amour qui allait m'attirer et me donner le courage nécessaire pour faire sur le pas. Il s'est trouvé que ça s'est passé à ce moment-là.
Quelle a été la réaction de votre femme lorsque vous lui avez annoncé que vous la quittiez pour un homme?
Si tu veux continuer à le voir, tu peux bien continuer à le voir. Je t'empêche pas de le voir. Je suis pas jalouse d'un homme. Mais on reste ensemble. C'est une réponse qui ne me satisfaisait pas du tout.
Parce que vous étiez en train de vivre l'amour.
Moi, c'était pas histoire d'aller le voir de temps en temps pour... ce que je voulais, c'était construire quelque chose et partager et vivre à deux tout. Donc là, quand on s'est séparés avec mon ex-épouse, elle m'a prêté une toile de tente et on a installé une toile de tente au camping de la commune à 3 km de la maison où j'habitais. Quand même un peu folklorique.
Et quelque part, ça devait avoir un charme fou, non?
Ah, c'était extraordinaire.
On était très bien.
C'était extraordinaire. On est resté un mois, par au moins.
Plus d'un mois.
Même plus d'un mois.
Ouais. Là, on est à quelques jours du départ à La Réunion. Parlez-moi de ce départ à La Réunion. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Pour moi, c'était le rêve irréalisable. Je me dis, dans ma tête, c'est pas possible. Ce rêve inaccessible, se réalise, là.
Dans ce rêve qui va se réaliser? Oui. Est-ce que derrière vous, vous laissez des choses que vous regrettez? À quoi vous pensez?
À plein de choses, mais c'est une réponse, c'est un peu difficile. Regrets, on a toujours des regrets, on a toujours des regrets. Alors, d'abord, la première chose, c'est... De se dire on s'en va à 10 000 km, donc on va être coupé un peu du contact régulier avec les proches, avec ma fille entre autres, mes petits-enfants. Donc, le regret, l'éloignement, mais aussi ne pas l'avoir fait plus tôt.
Jean est tombé amoureux de la Réunion lors d'un séjour il y a quelques années avec sa femme. Elle a toujours catégoriquement refusé de s'y installer. Lui, au contraire, en a toujours rêvé. Il a emmené André qui est tombé sous le charme. Si le projet est excitant, pour lui, c'est encore plus le grand saut, car il part sans travail et il va devoir en trouver un sur place.
Là.
Bon, eh ben.
Elle est bien pleine, là, les garçons.
Dernière valise, normalement.
Dernière valise.
La fermée. Là. Allez.
Voilà.
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 Hop, là.
C'est bon. Voilà. Ben voilà.
Donc, ouais. Et tout ça, ça va aller où maintenant?
Et ben ça, ça va partir avec nous dans l'avion.
D'accord.
Dans ouais. Quelques semaines. Mais quoi, en attendant.
Il y a un bel objet qui est dehors.
Il y a quoi? J'ai pas vu.
On va aller voir.
On va aller voir.
Dehors?
Dehors. Eh oui. Dehors.
Tu peux même pas rentrer dans la cour.
Eh oui, j'avais pas vu.
Donc voilà, il y a.
Ben oui.
Un gros container.
D'accord.
Et voilà.
Bah, tout va rentrer dedans. On l'espère.
Normalement.
Donc ils mettent la voiture en premier. Ils construisent une mezzanine. Et ils mettent les cartons, les meubles et. Il y a 5 semaines de mer.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce container là devant la maison? C'est comme Noël, non, un petit peu ou c'est quoi?
Noël, peut-être pas.
Mais quoi? Ça vous fait quoi, André?
Mais...
C'est une nouvelle vie qui commence.
Une nouvelle vie.
Bon, on est content quand même.
Ouais.
Ouais.
Une larme de bonheur. Hein?
Oui, c'est sûr, oui.
Dans 5 semaines, voilà. Donc.
5 semaines de bateau et on récupère tout ça à la Réunion.
On récupère tout et on se réinstalle. C'est quelque chose d'un peu phénoménal quand même.
Je les sens tous les deux très émus au moment de se lancer dans cette nouvelle vie sous les tropiques. Quelques jours plus tard, je les retrouve chez Florence, la fille de Jean, qui les héberge en attendant le jour du départ. Florence est chef d'entreprise, elle aussi est divorcée. Elle vit avec ses trois filles dans cette grande maison. Allez-vous, Jean?
Bien, bien.
André?
Bonjour, Olivier.
Ça va bien?
Très bien. Oui.
Qu'est-ce que c'est joli ici?
Bah oui, et en plus, il y a le soleil.
Il y a le soleil, on a de la chance.
Il y a le soleil. Ouais.
Donc là, nous sommes chez Florence.
Chez Florence, ma fille et mes petites filles.
Bonjour.
Olivier.
Bonjour, Florence.
Pas trop triste de voir papa s'en aller?
Forcément, si, un petit peu, parce que même si on ne se voyait pas, on va dire, tous les jours et qu'on ne s'appelait pas tous les jours non plus, là, la distance va faire qu'effectivement, ça va être un peu moins facile, mais ça nous fera un pied-à-terre pour venir au soleil.
Voilà.
Exactement. Pendant que Jean, Anaïs, sa petite-fille et André préparent le déjeuner, j'en profite pour m'isoler avec Florence pour savoir comment elle a vécu la rupture de ses parents et ce que lui inspire la nouvelle aventure amoureuse de son père. Comment Jean, votre père, vous a-t-il annoncé qu'il allait se séparer de votre maman?
En fait, j'étais venue déjeuner chez mes parents, je crois que c'était un dimanche, parce qu'il y a quelques années maintenant, donc, et en mettant la vaisselle dans le lave-vaisselle à la fin du repas, mon père, avec qui je n'avais pas forcément de relation très proche, m'a dit, en mettant la vaisselle, Florence, il faut que je te parle. Donc j'ai trouvé effectivement, on va dire, l'heure grave, comme on dit, parce que mon père n'avait pas l'habitude particulièrement de me parler comme ça. Donc nous sommes allés au grenier tous les deux. Je m'attendais à ce que mon père m'annonce une maladie. Et en fait, dans le grenier, mon père m'a annoncé, a commencé en me disant, parce que ça, c'est vrai que ça m'a marqué, et j'ai, on va dire, la phrase qui résonne toujours dans ma tête, en me disant, ben voilà, Florence, il faut que je t'annonce, t'as dû t'en rendre compte, ta mère et moi, ça n'allait pas. Ben, je lui dis non, j'ai rien remarqué, pas du tout, puisque mes parents ne se disputaient pas. Donc, il me dit, ben voilà, on va se séparer. Ah. Donc, bon, j'ai effectivement accusé, on va dire, quelque peu le coup. Et je lui ai demandé, donc, si c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai dit, il y a une autre femme. Et il me dit, non, c'est pas une femme. Donc, bah, je suis pas trop bête. Le temps, quand même, que tout ça remonte à mon cerveau, on va dire, je me suis dit, bah, donc, c'est un homme. Il m'a dit, bah oui. Et là, effectivement, c'est vrai que ça a été l'annonce, on va dire, à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
À 32 ans, ça fait quoi ?
Ça fait drôle. Alors, je dirais que ce n'était pas tant l'homosexualité qui me dérangeait, parce qu'il faut savoir que mon meilleur ami d'enfance, avec qui je suis toujours en contact, qui habitait en face de chez nous, était homosexuel depuis l'âge d'une quinzaine d'années.
Enfin, là, c'était votre papa, quand même. Donc,
voilà. Mais là, c'était le papa. Donc, c'est l'image, effectivement, non plus du copain ou des amis, c'est le papa. Le papa, le grand-père, etc. Donc, c'est vrai que ça a été, on va dire, la douche froide, quand même.
Qu'est-ce qui peut passer par la tête d'un enfant dont le père révèle son homosexualité, alors que vous aviez passé 32 ans à côté de lui sans qu'il se passe quoi que ce soit. Vous avez dit quoi ? Vous avez menti ou...
Non, il m'a dit qu'il avait ça en lui, a priori, d'après ce qu'il m'a expliqué, depuis qu'il était petit. Puis, donc, il s'est marié avec ma mère, ils ont eu des enfants, donc mon frère et moi. Et donc, voilà, la vie faisant, les enfants, la belle maison, le travail, donc le train-train, on va dire, quotidien qui roulait. Et puis, je pense que, arrivé à la retraite, plus rien ne le retenait. Les enfants étaient élevés, on était installés dans nos vies respectives. Donc voilà, il n'y a plus rien qui le retenait. Et il m'a même dit, effectivement, de toute manière, si jamais je ne l'avais pas annoncé là, et si jamais je ne l'avais pas dit et que je n'avais pas fait ça, je pense que je me serais également suicidé. Donc je préfère encore à mon père en vie, même avec un homme, que effectivement de ne plus l'avoir.
Il était quel type d'homme ? Parce qu'aujourd'hui, quand on le voit...
C'est juste changé.
Et donc c'était plutôt un homme strict avant, un peu sévère.
Ouais, strict, sévère. On n'avait pas ou quasi pas de discussion. Il n'y avait pas vraiment de communication dans la maison, quoi.
À aucun moment, ça a été une sorte de cataclysme pour vous, du genre oulala, tout le monde va savoir que mon père s'en va avec un mec de 20 ans de moins que lui. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon entourage? À mes enfants, tiens, d'abord, à vos enfants. Comment vous leur avez expliqué ça ?
L'entourage, je dirais qu'à la limite, c'était pas forcément ce qui m'importait par rapport à ça. Mes enfants, oui, après, ça a été effectivement comment je vais annoncer à mes enfants. J'avais à l'époque deux enfants, notamment ma plus grande. Comment je vais annoncer papy n'est plus avec mamie et est parti avec un homme. C'est pas forcément quelque chose de facile. Et puis, un jour où j'étais prête à en parler à ma fille aînée, on regarde la télévision, il y avait une pub à l'époque sur des préservatifs, et c'était deux homosexuels. Et ma fille me dit « Bah, c'est sale !» Et là, ça ne m'a pas arrangé, effectivement, mon affaire, pour pouvoir aller lui raconter juste derrière. Donc, je me suis dit « Bon, on va attendre. » Et puis, un soir, naturellement, alors comment, je ne sais plus, on était toutes les deux dans le lit, en train de discuter de tout et de rien. Et puis, je lui ai dit « Voilà, papy, tu vois qu'on le voit beaucoup moins. » Et puis, j'ai amené tout doucement cette nouvelle vie, cette nouvelle situation. Je dirais que c'est quand même relativement bien passé. Je lui avais quand même, par contre, expliqué de ne pas l'ébruiter, notamment parce qu'à l'école, les enfants sont quand même, effectivement, des fois un petit peu durs entre eux-mêmes, et je voulais pas qu'elle soit la risée, je dirais, des petits copains d'école qui auraient pu avoir des mots, on va dire, un peu déplacés. Quoi.
Ouais. Généralement, quand papy et mamie divorcent, ça ébranle vraiment l'édifice de la famille, des enfants jusqu'aux petits-enfants. Est-ce que vous avez senti que la pyramide tremblait au moment où votre papa a pris cette décision ?
Oui, un petit peu. Pour ma fille aînée, ça a été aussi, c'était l'image du grand-père. Donc même si, dans sa génération, elle, c'est pas quelque chose de tabou, et elle en a entendu parler à l'école et par les copains, etc. Mais c'était l'image du grand-père, c'était pas tant l'homme homosexuel. Ça, à la limite, on en voit partout et on en entend partout. Mais le grand-père, pour moi, ça avait une image, effectivement, de la famille importante. Et je trouvais que ça collait pas, quoi.
Mm-hmm. Bon, mais André, aujourd'hui... Et là, comment ça se passe avec les filles ?
Super. Elles ont accepté complètement, effectivement, cette situation. Et puis, avec André, moi, la première, aujourd'hui, je peux dire, entre guillemets, c'est mon beau-père, pour le côté, on va dire, rigolo et fun de la chose. Moi, ça se passe très, très bien. Il n'y a aucun souci. Ils sont, mon père comme André, d'ailleurs, très agréable avec les filles. Dès qu'ils ont pu les prendre en vacances, etc., il n'y avait aucun souci. André s'occupe des filles aussi. Donc, aujourd'hui, avec le recul, on va dire, maintenant, 11 ans après, ça n'a rien à voir, on va dire. Mes peurs du démarrage sont complètement effacées. Donc j'apprécie beaucoup André et je suis heureuse de voir mon père aujourd'hui, de le voir heureux, de le voir souriant. Je trouve qu'il a rajeuni de 10 ans. Maintenant, ça reste mon père, bien sûr, mais je dirais que c'est quasiment peut-être un copain, quoi. Voilà, on a des relations qui n'ont rien à voir et qui nous ont complètement rapprochés. Voilà, père-fille, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être, on va dire, dans mon enfance.
Vous vous êtes rapproché de votre père, mais à l'inverse, je crois que votre frère ne parle plus à votre père. À quoi vous attribuez le fait que lui ne parle plus à votre père ?
Je pense que mon frère, contrairement à moi, est certainement peut-être, je dirais, un petit peu moins ouvert d'esprit, a beaucoup moins accepté la situation. Et je pense que voilà, peut-être qu'en tant que garçon, de la relation effectivement, on va dire fils-père, et que mon père parte avec un homme, je pense que ça, par contre, c'est clair que lui ne l'a pas, n'a pas fait son deuil et ne l'a pas du tout accepté. Donc plus après, des problèmes familiaux qui viennent se greffer là-dessus. Et puis voilà, il ressasse des choses de l'enfance, etc., etc., qui font que tout ça a mis bout à bout, fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus communication, il n'y a plus rien.
À peine perceptible pour le visiteur, ces tensions familiales sont masquées par la bonne humeur qui règne dans cette maison. Ophélie, l'aînée de la famille, vient de passer son bac. Elle a tout juste 18 ans. Quels sont ses souvenirs de petite fille de 8 ans lorsque ses grands-parents se sont séparés ?
J'ai une image en tête, c'est ma grand-mère toute seule face à la fenêtre. C'était la première fois que je voyais ma grand-mère comme ça. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe. Enfin, c'est pas normal.
Ça vous a fait de la peine?
Je pense que ça m'a fait de la peine en voyant ma grand-mère regarder par la fenêtre. Je me suis dit... Mais j'ai jamais pris parti ou quoi.
Vous en avez parlé avec elle?
Jamais. J'ai jamais parlé de ça avec ma grand-mère. Autant avec papy.
Vous le regrettez, ça, de ne pas avoir...
Je regrette.
Aujourd'hui, vous êtes une jeune fille.
Voilà. 10 ans après, parce que ça fait maintenant presque 10 ans quand même, je regrette de ne pas avoir discuté sereinement ou de ne pas discuter aujourd'hui avec ma grand-mère tout ça, parce que je pense pouvoir comprendre certaines choses sur le divorce. Mais je pense aussi parce que je connaissais le divorce avec ma mère et mon père, je connaissais déjà l'expérience du divorce. Après, que ce soit un papy et un mamie, et une mamie, c'est quand même différent, parce que dans la cour de récréation, quand on a 8-9 ans, c'est quand même vachement différent de dire « Oui, bah, mon papa, ma maman, ils sont divorcés. Oui, bah, le mien aussi. Oui, mais mon papy et ma mamie aussi, ils sont divorcés. Ah bon, ça divorce des papys et des mamies ? Normalement, c'est fait pour aller jusqu'au bout ensemble, quoi. »
Justement, ça m'intéresse. Une jeune fille de 18 ans, fraîchement bachelière, quelle analyse elle peut avoir sur... le divorce?
Je pense avoir une vision très particulière du mariage. Si je me marie, je sais très bien que je vais divorcer. Aujourd'hui, je me ferais pas suer, moi, avec un garçon qui me correspondrait pas. Et pour moi, le divorce, c'est pas, je peux pas dire banal, mais je peux pas dire non plus tragique. Je comprends les gens qui divorcent. Je comprends. Je respecte, du moins. Je comprends que papy il ait eu envie de partir, d'éclater ce cocon familial. C'est peut-être difficile à faire, mais en rien je porterai un jugement négatif sur ça. Rien du tout, non.
Bah, disons, si vous aviez quelques doutes, Jean.
Ah non, mais hein? J'avais pas de doutes.
Non, mais je sais que vous n'en aviez pas. Florence.
Mais en... ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, finalement. Mm-hmm. Parce que ça veut dire aussi qu'elle a compris. Ce que pouvait être l'amour dans un couple et le partage. Je crois qu'elle ne peut pas le dire mieux qu'elle.
En attendant de retrouver Jean et André à 10 000 km d'ici dans leur petit paradis, je les laisse terminer leur carton. Une fois rempli, le conteneur prendra la mer sur un cargo pour 5 semaines avant d'arriver à destination. J'avais promis à Jean et André de retourner les voir à La Réunion. Cela fait maintenant 6 mois qu'ils sont installés et savourent leur nouvelle vie au soleil. Je les retrouve sur le marché de Saint-Paul. C'est le plein été, il fait 35 degrés. La vie ici a des airs de vacances. Pour eux, désormais, c'est tous les jours comme ça.
Olivier, bonjour.
André, Jean, comment ça va?
Bonjour.
Bien.
Ah ben regarde, tu vois, on est au marché de Saint-Paul, on fait des courses.
Alors?
Très très bien.
Voilà. 6 mois, vous êtes là?
6 mois.
Une nouvelle vie.
Une nouvelle vie.
Ah oui.
Vous êtes bien adapté là depuis
Impeccable.
6 mois?
Très bien.
Aux nouveaux produits locaux.
On a appris.
Cuisine locale. Vous débrouillez pas mal.
Vous débrouillez. Attends,
c'est pas si vilain que ça. Quoi.
Bon, ben, on va voir comment ce grand saut. C'était un grand saut quand même. Hein. La dernière fois que je vous ai quitté.
Dans les cartons et dans le grand départ, un peu dur, mais bon.
Vous allez me raconter tout ça?
Oui, il n'y a pas de souci.
La maison et comment vous êtes installé. Tout va bien? Vous êtes heureux?
Très.
Ah oui. Oui.
Bon, bah super. On va aller voir ça.
Nouvelle vie, oui.
Allez. On vient d'acheter du poisson.
Ah d'accord, très bien. Récupérons le poisson.
Voilà. Je vais pouvoir récupérer mon zourite, chef.
Le zourite, c'est quoi, du zourite?
Un zourite, c'est du poulpe. On appelle ça le zourite. On appelle ça le zourite, ici.
D'accord.
Jean et André ont vendu leur maison en métropole pour acheter cette grande villa qui domine l'océan. Ils envisagent d'aménager le sous-sol pour le transformer en chambre d'hôte. L'objectif, dégager un revenu d'appoint pour André qui a dû abandonner son travail. Pour le moment, c'est la retraite de Jean qui les fait vivre. Je me demande si la vie sous les tropiques n'est pas qu'un fantasme. Et si on ne se lasse pas vite de cette existence dédiée au farniente.
On a pris un peu le rythme.
D'accord.
C'est-à-dire, faut pas s'affoler. Voilà. Faut vivre avec le temps qu'il fait. Donc on se lève le matin, on traîne un peu. C'est très plaisant.
Vous avez rêvé longtemps de ça, Jean.
Oui.
Est-ce que c'est conforme à ce que vous aviez imaginé?
C'est plus que proche. C'est un peu.
Quand même.
Non, c'est plus que proche. C'est.
Ah oui.
C'est le rêve.
C'est le rêve.
Par moment, je me dis, c'est pas possible, quoi. On est là, mais on va repartir, quoi. Oh. Ça peut pas être vrai. Et pourtant.
Alors, 6 mois ont passé.
Oui.
Ça fait 6 mois que vous êtes à La Réunion. Ouais. Vous n'avez pas eu des doutes, des questions concernant cette famille que vous laissiez en métropole?
D'abord, avant de répondre directement à cette question, je crois qu'il faut, dire que il y a eu un événement catastrophique, à savoir que j'avais depuis... plusieurs années, des difficultés de communication avec mon fils. Et on avait prévu, par l'intermédiaire un peu de ma fille,
de
nous revoir avant de partir, façon à essayer de raccrocher un peu les wagons, comme on dit. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette opportunité-là. Il est décédé. Il est décédé avant même qu'on ait pu se voir. C'est quand même quelque chose, même dans ma vie, même si on se parlait pas, c'est quand même un événement extrêmement pénible. Je pense à ceux qui restent, je pense à ces deux filles, je pense à ma belle-fille. Je les ai eus par Internet et bien évidemment, on a évoqué, mais très rapidement, le décès parce qu'il fallait en parler, mais je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus. C'est des événements trop douloureux pour que ça ne sert à rien. Ceci étant, je les ai bien évidemment invités à venir, qu'on les accueillerait les bras ouverts. Et ma belle-fille m'a répondu, pourquoi pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. J'attends avec impatience la venue de tout ce petit monde. Ça fait partie des choses que je vais attendre avec impatience.
Je sens que Jean et André sont désormais ici chez eux. La France n'est déjà plus qu'un lointain souvenir.
Les Réunionnais, c'est le métissage total et c'est l'amabilité, l'ouverture.
Ça vous a profondément changé par rapport à la métropole?
Ah oui. Ah oui.
Vraiment?
Ah oui.
D'accord.
Ah oui. Oui, il y a vraiment... les gens vont... ils vont pas tout de suite vers toi comme ça, mais toujours un bonjour, un petit mot. On n'était pas tellement habitués à ça en métropole. Mm-hmm.
Je sais que là, c'est difficile à dire dans les 6 premiers mois, mais est-ce que vous voyez un jour revenir
non.
Ou là, c'est la fin, c'est la fin du cycle?
Enfin, moi, en ce qui me concerne,
aussi,
non.
Je pense que au début, ça n'a pas été facile.
Oui.
Bon, il y a quand même, il faut partir, il faut franchir le pas.
Il y a eu
ce type d'aventure fait naître aussi des doutes, c'est normal.
Ah oui, on a eu une période
de poser des questions à un moment.
Il y a eu un moment, on a eu un moment quand même, on s'est dit est-ce qu'on s'est pas gouré quoi.
D'accord.
Est-ce qu'on s'est pas gouré?
Mais maintenant.
Maintenant,
vous sentez que vous êtes parti pour finir votre
maintenant,
vie
maintenant, je ne vois pas ce qu'on pourrait aller faire. Enfin, si, on y retournera sans doute en métropole. Mais on y retournera, alors on dira en vacances.
Voilà.
C'est-à-dire, on fera un peu le contraire de ce qu'on faisait quand on venait là.
Donc vous êtes réunionnais maintenant?
Alors on est oreilles.
Pas réunionnais,
on ne sera jamais réunionnais.
D'accord.
Okay. On est oreilles.
Vous êtes oreilles.
Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir, du lundi au jeudi, à l'antenne d'Europe 1, dans la libre antenne. À très bientôt.